Vidocq, Mémoire, chapitre 45, la fin. Je reviens à mes moutons, c'est-à-dire aux catégories. La distinction des voleurs, selon le genre qu'ils ont adopté, serait de peu d'importance si, en même temps que je dévoile les moyens par eux mis en pratique pour vivre à nos dépens, je l'indiquais par quelles précautions on parviendra à se mettre à l'abri de leurs atteintes. S'ils prélevaient une dîme que sur le superflu, peut-être y aurait-il quelque cruauté à prétendre les empêcher de se procurer le nécessaire. Mais comme, vu le hasard de leur profession, entre Irus et Crésus, ils n'auraient pas toujours donné de choisir, et qu'ils prennent indifféremment où il y a et où il n'y a pas d'assez, que d'ailleurs ils prennent aussi pour se livrer à des profusions, je vais sans miséricorde déployer contre eux l'arsenal de tout mon savoir afin de battre en brèche leur industrie et, s'il est possible, de la mettre au sac, suivant l'expression de notre vieux Polycrate, je veux dire nos vieux chroniqueurs ou, mieux encore, nos vieux romanciers. Aucune capitale de l'Europe, Londres exceptée, n'en sert autant de voleurs que Paris. Le pavé de la moderne Lutèce est incessamment foulé par toutes espèces de larrons. Ce n'est pas surprenant, la facilité de se perdre dans la foule suffit à attirer tout ce qu'il y a de méchant garnement, soit en France, soit à l'étranger. Le plus grand nombre se fixe irrévocablement dans cette cité immense. Quelques autres n'y viennent que comme des oiseaux de passage, aux approches des grandes solennités ou durant la saison rigoureuse. Et à côté de ces exotiques, il y a les indigènes qui forment dans la population une fraction dont le dénominateur est assez respectable. J'abandonne au grand supputateur M. Charles Dupin le soin de l'évoluer en décimales et de nous dire si le chiffre qu'elle donne ne devra pas être pris en considération dans l'application de la teinte noire. Les voleurs parisiens sont en général haïs des voleurs provinciaux. Ils ont, à juste titre, la réputation de ne pas faire difficulté de vendre leurs camarades pour conserver leur liberté. Aussi, lorsque, par l'effet d'une circonstance quelconque, ils sont jetés hors de leur sphère, ils ne trouvent pas aisément à qui s'associer. Au surplus, ils ont une grande prédilection pour le lieu de leur origine. Ces enfants de Paris ne peuvent pas se séparer de leur mère. Ils ont pour elles une forme de tendresse inépuisable. À tous les cœurs bien nés, que la patrie est chère. Transporté dans un département, un voleur parisien est tout désorienté. Eût-il été en face de la lune, comme une aéronite, il n'y serait ni plus emprunté, ni plus neuf. C'est un badaud, un vrai badaud, de toute la force du terme. À chaque instant, il redoute de prendre maître pour renard. C'est terrible quand on ne connaît pas le terrain. Il ne sait où il met la main et le pied. Peut-être cherche-t-il sur des charbons ardents. Cineri doloroso. Il n'ose faire un pas, parce qu'il a un hameau badaud sur les yeux, et que s'il va se heurter, il est averti que personne n'est là pour lui crier casse-cou. Et tout au contraire, on s'amuse à le voir en péril, parce qu'on est convaincu qu'il est poltron. S'est-il embarqué dans une gaucherie, on doit lui laisser achever, on l'y pousse même. Et si dans son chemin, il rencontre un gendarme, quel malheur, que malheur lui advienne, qu'il succombe enfin. Les mains du Colamaillard en font des gorges chaudes. Au sein d'une petite ville, un voleur est tout à fait déplacé. C'est la poule qui n'a qu'un poussin. Il est là exactement comme le poisson dans l'huile, comme le poison dans la nature. Comme ce n'est pas son élément. Il y a trop de câline, de calme dans une petite ville, trop de tranquillité. La conciliation est trop régulière, trop rapide. Mieux vaut beaucoup de tumulte, de confusion, du trottement, de l'embarras, du désordre, et un fluide sujet à se troubler. Tous ces avantages, c'est à Paris qu'ils sont rassemblés, dans l'exigu, mais bien rempli département de la Seine, dans le périmètre de 5 à 6 lieues, sur un espace qui suffirait à peine à l'établissement du parc d'un grand seigneur. Paris est un point sur le globe, mais ce point est un cloaque. À ce point aboutissent tous les égouts, et sur ce point tourbillonne, passe, repasse, croise et s'entrecroise des myriades de propriétaires de la vie par excellence. Le voleur parisien est habitué à cette cohue. Hors de là, il nage dans le vide et son habileté expire. Il le sait bien, et ce qui le prouve incontestablement, c'est que, parvient-il à s'évader du bagne, c'est toujours sur la capitale qu'il redirige à tire-d'aile. Il ne tardera pas à être repris. Que lui importe, il aura encore une fois travaillé à sa guise. Les voleurs provinciaux se font assez promptement au séjour de Paris. Ce n'est pas que le climat leur convienne mieux que tout autre, mais ce sont des espèces de cosmopolites qui trouvent une patrie partout où il y a à dérober. Ubi bene, ubi patria. Telle est leur devise. Ils s'accommodent tout aussi bien de la résidence de Rome que de celle de Pékin lorsqu'il y aura du butin à faire. Ils n'ont ni l'extérieur agréable, ni les formes découplées, ni la jactance du voleur parisien. Eussent-ils vécu un siècle dans Paris, ce serait toujours des rustres. Les amis de Pantin leur reprocheraient toujours d'être bâtis comme des poignées de sottises et ne ressembler à personne. La tenue et les manières, voilà leur côté faible. Ils n'ont point d'urbanité et quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais parfumés de cette fleur d'atticisme dont l'odeur suave charme et enivre ce monde brillant et frivole qu'on ne peut duper qu'après l'avoir séduit. Mais s'il manque de cet entre-gens qui, sous quelque rapport, donne aux indigènes une certaine supériorité, en revanche, ils ont plus de capacité. Sous une enveloppe grossière ou des dehors lourds en apparence, ils cachent une dose d'astuce et de finesse qui, dans les entreprises de premier ordre, les rend propres à écarter les obstacles et à capter la confiance des personnes réfléchies. Que l'on consulte les archives du crime, tous les grands vols, tous les vols hardis et raisonnés, sont faits de voleurs provinciaux. Ces derniers ne sont pas fluets, mais ils sont audacieux, persévérants, méditatifs. Ils conçoivent bien et ils exécutent encore mieux. Les voleurs de profession originaires de la capitale sont rarement des assassins. Ils ont en horreur le sang. Et quand ils versent, c'est toujours à regret. C'est que par des circonstances imprévues, ils y ont été forcés. Par extraordinaire, ont-ils des armes? Ils n'en font usage que pour s'échapper dans le cas de surprise en flagrant délit. Les grands crimes dont Paris est parfois le théâtre ont presque toujours été commis par des étrangers. Une particularité assez remarquable, c'est que les assassinats sont ordinairement le fait d'un débutant dans la carrière. Ceci est vrai, très vrai, n'en déplaise à des moralistes inobservateurs qui répètent, d'après le poète, ainsi que la vertu, le crime à ses degrés. Avant de commettre une mauvaise action, les voleurs expérimentés calculent les conséquences de cette action par rapport à eux. Ils connaissent la peine qu'ils encourront. Ils jouent parce qu'ils ont besoin de jouer. Mais il s'agit d'aller de leur tout. Ils regardent à deux fois. Le code qu'ils étudient sans cesse leur dit « Vous irez jusque-là, vous n'irez pas plus loin. » Et un bon nombre d'entre eux reculent devant la réclusion, devant la perpétuité, devant la mort. Ce n'est pas sans intention que, dans cette énumération, je place la mort en dernier lieu. C'est le moindre des épouvantails. Je le démontrerai, qu'on juge d'après cela, si notre pénalité est bien graduée. Les voleurs provinciaux, en général, moins civilisés que ceux dont l'éducation s'est faite à Paris, n'éprouvent aucune répugnance à tuer. Ils ne se bornent pas à se défendre, ils attaquent et souvent dans leurs expéditions, non seulement ils sont téméraires, mais encore ils se montrent atroces et jusqu'au dernier degré, cruels. 1000 traits barbares consignés dans les fastes judiciaires peuvent venir à l'appui de mon assertion. La sagesse des nations a depuis longtemps proclamé comme une vérité que les loups entre eux ne se mangent jamais, afin de ne pas faire mentir le proverbe, les voleurs sont les uns pour les autres des égards de confraternité. Tous se regardent comme les membres d'une même famille, grande famille. Et quoique les voleurs provinciaux et les voleurs parisiens soient généralement peu disposés à s'entraider, l'antipathie ou la prévention ne va pas jusqu'à s'entre-nuire directement. Il y a toujours un pacte qui est respecté dans quelques-unes de ces généralités. La bête, dirait un philosophe d'Outre-Rhin, se sent dans la bête de race. Le confrère aime à retrouver le confrère. Aussi les voleurs ont-ils des signes de reconnaissance et un langage particulier. Posséder ce langage, être initié à ces signes, alors même qu'on n'est pas du métier, c'est déjà un titre à leur bienveillance. C'est une preuve, ou tout au moins une présomption, qu'on fréquente des amis. Mais ces notions plus précieuses, dans quelques circonstances que celles de la franc-maçonnerie, ne sont pas un garant infaillible de sécurité. Et sut-on l'argot, comme un jeune lord dont je m'abstiens de décliner l'ignoble surnom, je conseillerais encore de ne pas s'y fier. Voici au surplus une petite aventure qui, je crois, montrera que je n'ai pas tort. Je demande pardon au lecteur, si je m'interromps encore pour compter, mais ce sera bientôt dit. Le père Bailly, ancien guichetier de Sainte-Pélagie, avait depuis quelques mois troqué cet emploi contre celui de gardien au dépôt de mendicité de Saint-Denis. Le père Bailly était un vieillard qui aimait passionnément et passablement le jus de la treille. Au reste, quel geôlier ne boit pas avec plaisir, surtout quand on l'y convie et que ce n'est pas lui qui paye. Depuis 25 ans qu'il était dans la prison, le père Bailly avait vu bien des voleurs. Il les connaissait presque tous, et tous l'estimaient, parce qu'il se montrait bon enfant. il ne les chagrinait pas trop. Pour ceux dont la bourse était déraisonnante, il était aux petits soins. Petits soins de geôlier, on sait ce que c'est. Un jour, le bonhomme était venu à Paris afin d'y toucher une petite rente qui s'était amassée du produit de ses économies. C'était les subsidia senectutis, les ressources de la vieillesse, la provision de la fourmi, la réserve pour la goutte matinale et le tabac de toute la journée. L'échéance était arrivée. Le père Saillie reçut son argent, 200 francs. Il l'étonnait, mais allant et venant, il avait avalé quelques canons, de telle sorte qu'au moment de retourner à son poste, il était un peu gai. Ce n'est pas un mal, cela donne des jambes. Ainsi cheminait-il, de belle humeur, heureux d'en avoir terminé à sa satisfaction, lorsque, sous la porte de Saint-Denis, deux de ses anciens pensionnaires l'accostent en lui frappant sur l'épaule. « Eh, bonjour, père Bailly !» Se retournant. « Bonjour, mes enfants. Voulez-vous que vous en coûte une chopine sur route ?»« Sur le pouce, oh, volontiers, quand j'ai pas le temps. » On entre aux deux boules. Une chopine en 3, 8, 20 et un vivant. Eh bien, mes enfants, que faites-vous? Ça va-t-il bien? Paraît que oui, car vous marquez, vous avez l'air à votre aise. Oh, pour ce qui est de ça, nous n'avons pas à nous plaindre, depuis que nous sommes décarrés, sortis. Les affaires vont assez bien. Eh bien, j'en suis charmé, j'aime bien vous voir content. Mais prenez garde à retourner rue de la Cité. C'est une fichue hôtel. Il a vidé son verre et tend la main de l'adieu. Quoi, déjà, mais nous ne nous voyons pas si souvent, puisque vous êtes là. Nous n'entendons plus rien du tout. Alors, encore une moche chopine. Oh non, 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 ce sera pour une autre fois. Je suis pressé. Et puis, je suis sur mes pattes. J'ai tant couru depuis ce matin. Savez-vous que j'ai devant moi un bon ruban jusqu'à Saint-Denis, jusqu'à Saint-Denis. Mais une minute de plus, une minute de moins, dit un des pensionnaires. Ce n'est pas ça qui vous retardera. Nous allons nous asseoir dans la salle. Allez, n'est-ce pas, père Bailly ? Oh, il n'y a pas moyen de vous refuser, allons. Me laisse aller, mais qu'on nous serve promptement. Une chopine, pas plus, et je pars. Il n'y a pas de bon Dieu. Il en pleuvrait. Je file net comme tourchette. Oh, voyez-vous, je fais serment. La chopine se boit. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième s'écoule, et le père Bailly ne s'aperçoit pas qu'il est parjure. Enfin, il est ivre, complètement ivre. Il n'y a pas à dire, répète-t-il à tout bout de champ. Il faut que je parte. Il se fait nuit. C'est pas tout. J'ai 200 francs dans mon paquet. Si on allait me servir, me voler en route. Mais qu'avez-vous peur? Il n'y a pas un gringe qui voulait vous dire faire la sottise. On vous connaît trop brave pour cela. Le pape Bailly, mais il peut passer partout, le pape Bailly. Oh, je sais bien, vous avez raison. Si j'étais des habits de Pantin, je pourrais me faire reconnaître, mais... Des pauvres nouvellement affranchis, des paysans qui ont leurs premières armes, j'aurais vu faire l'arçon. Il n'y a pas de danger. À votre santé, père Bailly. À la vôtre. Hein. Ça, je m'ennuie pas, mais c'est 100 fois que je m'en vais. Oh, il n'y a plus de rémission. Allez, bonsoir. Portez-vous bien. Vous le voulez, vous ne vous retenons plus. Et il l'aide à placer sur son épaule un bâton à l'extrémité duquel est attaché le paquet qui contient le numéraire. Et aussitôt, le père Bailly, qui a sa charge, prend son essor. Le voilà dans le faubourg, papillonnant, trébuchant, voltigeant, roulant, gravitant, faisant des terres à terre, et s'avançant pourtant en force de zigzag. Et tandis qu'il décrit ainsi des S, des Z, toutes les lettres bamboches de l'alphabet, les deux pensionnaires se consultent sur ce qu'ils feront. Si tu étais de mon avis, dit l'un d'eux, nous prendrions ces 200 balles à Zviora. Mais parbleu, t'as raison, son argent vaut celui d'un autre. Eh oui, allez, suivons-le, suivons-le. Malgré ses tergiversations, le père Bailly avait déjà dépassé la barrière. Toutefois, ils ne tardèrent pas à l'apercevoir. Encore aux prises avec son vin, il marchait contre vents et marées. Il y avait du tangage, oh, beaucoup de tangage. Il chancelait, rétrogradait, obliquait, si bien qu'à la fin, à le voir dans cet état, par humanité, tous les cochers imaginaient de lui proposer une place dans leur coucou. Passe ton chemin, mannequin, répondait-il à cette offre, le gracieux porte-clés. Le père Bailly a bon pied, bon œil. Bien lui en eût pris d'être moins fier, car en arrivant dans la plaine des Vertus, ils trouvèrent dans un grand embarras. Qu'on se figure ce doyen de la geôle entre les griffes de deux voleurs. Le saisir à la gorge, enlever le paquet, fut l'affaire d'un instant. En vain se démange-t-il à faire le signe qui doit le sauver. Du maigre, crie-t-il à tue-tête. Ce sont les mots de passe qu'il faut entendre. Il se nomme, c'est le père Bailly. Il n'y a ni signe, ni mot, ni nom qui tienne. Il n'y a ni gras, ni maigre, ripostent les voleurs en contrefaisant leur voix. Il faut lâcher le bouche, le lichon, le paquet. Et en proférant ces paroles, ils disparaissent. Elle est raide, celle-là, murmure la victime. Oh, ils la porteront pas au paradis. Cette prophétique menace aurait pu s'accomplir. Mais entre eux et la justice, il y avait sur le cerveau du vieillard les vapeurs anti-mnémotechniques de Suresnes. Et sur cet hémisphère, les épaisses ténèbres d'une nuit profonde, le père Bailly est enterré. Ah, je reprends le fil de mon discours. Attention, il serait impossible de classer les voleurs s'ils ne s'étaient classés eux-mêmes. D'abord, un individu obéit à son penchant pour la rapine. Il dérobe à tort et à travers tout ce qui se présente. Dans le principe, c'est, comme dit le proverbe, l'occasion qui fait le larron. Mais le bon larron doit au contraire faire l'occasion. Et ce n'est que dans les prisons qu'il acquiert ce qui lui manque pour atteindre une perfection semblable. Après avoir subi une ou deux petites corrections, car point de commerçant qui ne fasse ce qu'on appelle une école, il connaît et on lui fait connaître son aptitude. Alors, éclairé sur ses moyens, il se détermine à adopter un genre et ne le quitte plus, à moins qu'il ne soit forcé. Les voleurs d'extraction sont pour la plupart juifs ou bohémiens. Encouragés par leurs parents, ils pratiquent en quelque sorte au berceau. À peine peuvent-ils faire usage de leurs jambes, ils appliquent leurs mains à mal faire. Ce sont de petits spartiates à qui, du matin au soir, on recommande de ne rien laisser traîner. Leur vocation est marquée d'avance. Ils suivent les errements de leur caste. Les guides et les leçons ne leur manqueront pas, mais il y a voleurs et voleurs. Afin de ne pas ignorer leur véritable disposition, ils s'essaient dans tous les genres. Et dès qu'ils ont découvert celui dans lequel ils excellent, ils s'y fixent. C'est un parti pris. Ils ont embrassé une spécialité et ils n'en sortent plus. Depuis le déluge, il n'y a eu qu'un Voltaire. C'était un homme universel. Depuis la création du monde, il ne s'était pas trouvé parmi les voleurs une seule tête encyclopédique. Sauf quelques exceptions. Ils sont bien les êtres les plus circonscrits et par conséquent les moins excentriques que je connaisse. En somme, chacun se borne à cueillir des fruits sur la branche auquel il s'est attaché. Quand la branche ne nourrit que médiocrement, on gasgraffie. Et quand elle ne fournit plus, on passe à une autre. Mais on n'exploite pas deux branches à la fois. Peut-être gagnerait-on rien à le faire. Puis chaque branche est un monopole. Et des monopolistes, quels qu'ils soient, sont trop jaloux de leurs prérogatives pour souffrir les empiétements. Quelques voleurs, pourtant, ont eu deux cordes à leur arc, deux cornes à leur arbre, diraient certaines actrices de la Porte-Saint-Martin. Elle aurait raison. Ces privilégiés étaient ordinairement des gens mariés. Le mâle travaillait de son côté, la femelle de l'autre, ou bien, pour faire une bonne maison, d'un commun accord, on opérait la fusion des deux industries. D'espèce à espèce, les voleurs ont de la morgue. L'escroc, qui est un homme du monde, méprise le filou. Le filou, qui se borne à escamoter adroitement la montre ou la bourse, se tient pour offensé si on lui propose de dévaliser une chambre. Et celui qui fait usage de fausses clés pour s'introduire dans un appartement qui n'est pas le sien regarde comme infâme le métier de voleur de grand chemin. Jusque sur l'échelle du crime, qu'il soit ou plus beau ou plus bas, qu'il monte ou qu'il descende, l'homme a sa vanité et son dédain. Partout, dans les plus abjectes conditions de la vie, pour que son moi ne rêve pas, ne crève pas de dépit et d'humiliation, il a besoin de se persuader qu'il vaut mieux que ce qu'il est, ou devant ou derrière lui. Et afin de s'enorgueillir encore, il ne réfléchit du monde extérieur que la portion la plus infime. Celle-là, du moins, ne lui fait pas honte. Il est plongé dans la fange, mais il s'élève son front au-dessus du bourbier. S'il croit voir plus bas que lui, il s'imagine qu'il plane, qu'il domine. Il y a de la joie pour son cœur. Voilà pourquoi tous les coquins qui n'ont pas franchi cette moyenne région de perversité où la probité n'existe plus que comme une réminiscence, ont tous l'orgueil d'être moins criminels les uns que les autres. Voilà pourquoi, au-delà de cette région, c'est au contraire qui fera parade du plus haut degré de scélératesse. Et voilà pourquoi, enfin, dans chaque espèce, même en deçà de la région moyenne, où l'on pèse le plus ou moins de déshonneur, il n'est pas un fripon qui n'aspire à être le premier dans son genre, c'est-à-dire le plus adroit, le plus heureux, ou, ce qui revient au même, le plus coquin. Il est bien entendu que je ne parle ici que des voleurs profets, qui sont les cosaques réguliers de notre civilisation. Quant au paysan qui vole une gerbe, au savetier qui fait de la fausse monnaie, au notaire qui se prête à un stellionat ou écrit un testament sous la dictée d'un mort, ce sont là des cosaques irréguliers, de purs accidents, et qui ne peuvent avoir leur place dans une classification. Il en est de même des auteurs isolés et de tous ces attentats auxquels peut pousser l'effervescence des passions, la haine, la colère, la jalousie, l'amour, la cupidité et les rages d'une dépravation frénétique. Les assassins de profession sont les seuls dont j'ai à m'occuper en décrivant ces catégories. Mais auparavant, je vais faire comparaître les espèces dont les mœurs sont plus douces. La séance est ouverte. Qu'on amène les cambrioleurs.